pour devoir remplacer le père Philippe, qui ne pourra pas venir ce soir. D'abord parce qu'il n'a plus beaucoup de voix, et parce qu'il avait autre chose à faire. Alors, il m'a demandé de préparer quelque chose sur... Vous n'entendez rien ? Bon, je peux parler plus fort, ça c'est pas un problème. Non mais c'est pas grave ça, après. Je vais parler plus fort. Donc ce soir, ça devrait être sur l'étude de la connaissance et la comparaison entre la connaissance philosophique et la connaissance scientifique. Donc le sujet, c'est un peu science et philosophie. Alors d'abord, préciser les termes, parce que le terme de science n'a pas toujours eu le même sens. Pour les Grecs, la science, la philosophie était la science. Alors que pour nous aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas premièrement la philosophie qui est la science. Mais déjà les Grecs ont rencontré ce que nous appelons aujourd'hui la science, à travers les mathématiques notamment. Là je vous renvoie à Aristote qui, longuement dans la métaphysique, étudie les mathématiques, étudie le phénomène des mathématiques et le compare à la philosophie. Et puis ce qui est intéressant, on n'aura pas le temps de le développer, mais ça apparaîtra, je dirais, en contrefond de ce qu'on dira. Il s'oppose à Platon, précisément sur ce rapport entre philosophie et mathématiques. Au fond, il montre un peu que la connaissance mathématique est un peu le modèle philosophique de Platon. Parce que de la même manière que les mathématiques raisonnent sur des êtres de raison, donc sur des êtres qui sont pensés, ne sont pas premièrement des êtres réels, les 3 et les 2, ça ne se rencontre pas partout dans la rue. De la même manière, la théorie platonicienne des idées est fondée sur une participation de l'invisible par le visible. Alors ça, c'est pour les Grecs, et jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à l'époque de Galilée, qui est quand même un tournant très important, la science... C'est la philosophie, ce sont les mathématiques, la géométrie. Et au fond, c'est à partir du développement de la science physique que le terme de science a pris une signification différente. Alors, pour nous aujourd'hui, les sciences, c'est premièrement ce qu'on appelle les sciences positives et les sciences humaines. Alors la science réfléchit sur elle-même et la philosophie réfléchit sur la science, ça s'appelle l'épistémologie. Et c'est quelque chose qui s'est développé, je dirais, de manière assez récente. Au fond, la philosophie a longtemps ignoré la science. Ou bien elle s'en est servie comme modèle, ça je vous renvoie à Descartes qui est fasciné par les mathématiques, ou à Leibniz aussi, qui sont souvent au XVIIe siècle, les philosophes sont suffisamment géniaux pour être à la fois philosophes, physicien, mathématicien, des fois même juriste, théologien, ce que Descartes a écrit sur l'Eucharistie, psychologue, il a écrit aussi sur les passions. Mais au fond, ensuite, notamment au XIXe siècle, il y a eu une espèce de césure. Vous voyez, c'est le XIXe siècle, c'est l'époque de Kant, c'est l'époque de la pensée beaucoup plus idéaliste, et c'est l'époque aussi du développement scientifique. Si bien qu'il a fallu... attendre le XXe siècle pour qu'il commence à y avoir une vraie confrontation entre les deux structures de pensée. Alors, je vous renvoie principalement aux épistémologues que sont Bachelard et Canguilhem, qui sont des gens qui ont essayé de réfléchir sur l'évolution de la science et sur ce que c'est que la pensée scientifique. Et au fond, sur le défi que la pensée scientifique lance à la philosophie. Parce que le problème de la science, c'est que jusqu'au Moyen-Âge, l'âme, l'activité morale, le monde, tout ça, c'était réservé à la philosophie. Aujourd'hui, le monde s'est réservé. C'est envahi, et à juste titre, par les sciences physiques, astronomiques, astrophysiques. Le problème du corps et de la vie, c'est la biologie. Le problème de l'âme, c'est la psychologie. Donc vous voyez, il n'y a quasiment aucun domaine philosophique qui ne soit apparemment envahi par la science. Alors, ce que je voudrais essayer de faire dans un premier temps, C'est, oui, je vous renvoie aussi à Maritain, qui, dans son analyse des degrés du savoir, réfléchit sur les rapports entre science et philosophie. Alors, il montre qu'il y a premièrement une différence de degré dans la pénétration de la science et de la philosophie, et il essaie de montrer qu'il y a une différence de regard. Je m'en inspirerai, je dirais, dans l'intention, peut-être pas toujours dans ce qu'il fait concrètement. Alors, ce que je voudrais de manière très simple, c'est commencer par essayer d'étudier la différence entre l'attitude philosophique et l'attitude scientifique, en distinguant l'expérience et l'expérimentation. Alors, l'expérimentation scientifique, qu'elle soit dans le domaine de la psychologie expérimentale, ça a c'est très très précis, c'est pas simplement la psychanalyse. L'expérimentation, elle implique précisément des conditions déterminées. Et puis surtout, elle implique un instrument de mesure. Le scientifique n'aborde pas la réalité tout seul, enfin, je dirais les mains nues. Il aborde la réalité à travers des instruments et à travers une mesure. Et son souci, d'ailleurs, est d'avoir une mesure toujours plus précise. Et je dirais, le scientifique aborde aussi la réalité à travers une méthode. C'est très important. Ça, les épistémologues le soulignent beaucoup. La méthode est très, très importante en science. Puisque en observant le même objet avec deux méthodes différentes, on obtient deux théories différentes. Vous voyez, par exemple, la théorie de la lumière, qui est à la fois corpusculaire et ondulatoire, elle dépend d'une méthode d'approche. C'est la même réalité, mais qui est abordée selon deux méthodes différentes. Et avec des instruments qui ne sont pas les mêmes. Donc la place de l'instrument et de la méthode sont très très importantes. Et puis, plus profondément, la démarche de la science est une démarche qui est hypothético-déductive. C'est-à-dire que le scientifique aborde la réalité, je dirais, avec une idée derrière la tête. Il a une théorie qu'il vérifie. C'est clair qu'on ne peut pas, je dirais, s'attaquer à la structure de la matière sans avoir une théorie, ne serait-ce que pour agencer, je dirais, une méthode, pour structurer une méthode et pour se servir d'instrument. Donc, au fond, le scientifique construit une hypothèse qu'il vérifie dans la réalité. Alors c'est évident, cette hypothèse, cette construction, elle n'est pas purement, heureusement, elle n'est pas purement imaginaire. Elle a un rapport avec le réel. Mais c'est important de comprendre que la phase d'élaboration d'une théorie, on le voit aujourd'hui beaucoup plus fortement peut-être qu'au début de la science, est très très importante. Et c'est là que les mathématiques vont jouer un rôle, je dirais, de simplification et d'instruments très grands. Alors vous voyez, il faudrait presque regarder dans chacune des sciences, que ce soit en physique, vous voyez, en physique c'est très clair, enfin, je dirais les théories de la... Alors on verra précisément ce que c'est qu'une hypothèse, on essaiera de voir ce que c'est qu'une hypothèse, ce que c'est qu'une théorie scientifique. Bon, en physique c'est assez clair, en psychologie c'est la même chose. Vous voyez, un psychologue n'aborde pas la réalité innocemment. Dès qu'il a quelques éléments, il essaye d'en construire une théorie et ensuite de vérifier si ce qu'il a généralisé est valable. Même en histoire, l'histoire, si elle a été longtemps descriptive, mais déjà à partir de Montesquieu, on tente à partir des faits de dégager des lois générales. Et au fond, l'expérimentation... Vous voyez, n'est pas une fin en soi, c'est clair que l'expérimentation, c'est qu'un moyen pour le scientifique. Je ne crois pas que le scientifique soit fasciné par son expérimentation. Vous voyez, ce qui intéresse le scientifique, c'est le résultat de son expérimentation. Ce qui peut l'impressionner, c'est la réalité qu'il expérimente, mais l'expérimentation comme telle, elle n'est qu'un moyen. Enfin, un dernier élément, c'est que la science, alors ça aussi les épistémologues comme Bachelard l'ont beaucoup souligné, procède, je dirais, elle progresse par mode d'erreur. En gros, enfin, il y a une étude de l'évolution de la biologie qui a été faite dans ce domaine-là et qui fournit un modèle assez clair. C'est les monstres qui font progresser la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une théorie, pour qu'elle progresse, il faut qu'il y ait un endroit où elle ne marche pas, elle ne soit pas vérifiée. Et qu'est-ce qui provoque la remise en cause d'une théorie? C'est parce qu'elle n'est pas valable partout. Il y a une expérimentation qui ne rentre pas dans la théorie qu'on a construite. Et au fond, il faut attendre l'anomalie vous voyez, pour progresser. Et puis, plus profondément, l'attitude que la science a par rapport à la réalité, c'est que la réalité, elle n'est pas très intelligente comme telle, et que précisément, j'ai besoin d'une théorie pour la comprendre. Vous voyez, la réalité scientifique, elle ne parle pas toute seule. Il faut une expérimentation, il faut une instrumentation, il faut une mesure élaborée par l'homme pour que la réalité se mette à être compréhensible. Bon, ça c'est très simple, hein. C'est évident que un bout de bois, ça ne vous dit pas sa structure chimique, simplement à le regarder. Vous voyez, ça demande, il faudra une expérimentation et une théorie chimique pour le situer, ce bout de bois. Et puis, plus profondément, il faudra se demander aussi si l'attitude du scientifique par rapport à la réalité, en tant qu'il l'expérimente scientifiquement, n'est pas la recherche, je dirais, à juste titre, hein, tout ce que je dis là, ce n'est pas critique, hein, c'est positif, la recherche d'une emprise sur la réalité. Au fond, il cherche la manière dont il va pouvoir maîtriser et dominer la réalité. Alors, en face de cette expérimentation, apparaît, je dirais, de manière beaucoup plus pauvre. Vous voyez, c'est important de comprendre que l'expérimentation a une très grande, enfin, a une noblesse parce que, notamment quand elle est très précise, elle correspond à une objectivité de pensée absolue. Personne ne mettra en doute une expérimentation qui est faite dans des conditions déterminées, précises. L'expérience humaine, à côté de ça, elle est très pauvre, elle implique une subjectivité qui est plus ou moins importante, mais qui souvent est envahissante. Elle est confuse. Alors, elle a l'avantage, en plus, elle implique souvent tout l'homme. Je dirais, la vie quotidienne, chacune des expériences dans la vie quotidienne, elle implique toute notre personne. Et quelqu'un qui, je sais pas, mais quelqu'un qui fait la cuisine, c'est tout lui qui cuit la cuisine, qui fait la cuisine. C'est pas simplement les mains, vous voyez, qui sont les instruments, et puis le reste de la tête fait des mathématiques. Ça donne souvent des plats un peu brûlés, quoi. Mais c'est important de comprendre que l'expérience, elle implique, elle réclame, elle engage, plus exactement, et je dirais, elle enveloppe toute la personne humaine, ce qui rend la chose difficile, à la fois très très riche. Vous voyez, d'une certaine manière, l'homme face à son expérience ne commence pas par trier la richesse de son. Vous voyez, il ne sélectionne pas. Une expérience, ce n'est pas sélectionner. Et ça se reçoit, une expérience. Je dirais ça. On ne peut pas dire que, premièrement, ça se prépare. Premièrement, ça se vit. Des fois, ça se supporte. Mais ce n'est pas quelque chose. On ne sélectionne pas ce que l'on va expérimenter, ce que l'on va vivre dans l'expérience. Alors que dans l'expérimentation, on étudie la structure chimique de telle réalité. Ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques psychologiques, ses caractéristiques historiques et culturelles, ça nous est complètement. Enfin, ça égale au chimiste, enfin, il vaut mieux pour lui. Alors que dans l'expérience humaine, tout est présent, à la fois la sensibilité, à la fois l'intelligence, à la fois, je dirais, toute la psychologie, vous voyez, que ce soit l'esprit, que ce soit la mémoire, que ce soit le souvenir, que ce soit l'affectivité, tout est présent. Alors c'est évident, il y a tel ou tel élément qui est plus mis en valeur. C'est clair que dans l'amitié, l'accent n'est pas le même que dans le fait de faire la cuisine ou que dans le fait de courir à pied. Mais il n'y a pas, et puis un autre aspect, c'est qu'il n'y a pas d'instrument. Je suis directement plongé dans l'expérience. Ensuite, elle a vous voyez, l'expérimentation, et d'une certaine manière, elle est symbolique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est presque purement objective, l'expérimentation. C'est-à-dire que vous fassiez une expérience à Dallas ou à Paris, à partir du moment où les conditions sont les mêmes, elle a exactement la même valeur. Alors que un Chinois ou un Français, il n'aura pas la même expérience, je ne sais pas trop, quand il mange des crevettes ou quand il mange des huîtres. Et c'est important de comprendre, elle est singulière et elle implique une part de subjectivité d'expérience. Et le philosophe, c'est de ça qu'il va partir. Et il va aborder ça sans beaucoup d'instruments, à part son intelligence et je dirais ça, ses sensations, son intelligence liée à ses sensations, liée aux cinq sens. Et puis aussi, le philosophe sera aidé par le phénomène de la répétition dans l'expérience. C'est évident, je dirais, quand on parle d'un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose plusieurs fois, qui arrive à en dégager quelque chose. Alors que le scientifique, je dirais, n'a pas besoin de vérifier si son expérience est... Vous voyez, aujourd'hui, on voit bien dans le domaine physique, étant donné le prix, vous voyez, et l'investissement matériel que représente une expérience dans le domaine de la physique nucléaire, on ne refait pas 20 fois une expérience. Si les conditions étaient bonnes, elle est déterminante. On la refait peut-être une deuxième fois, alors que apprendre à faire la cuisine ou à faire du vélo, il vaut mieux essayer plusieurs fois avant de monter dessus. C'est important de comprendre que ça, vous voyez, l'attitude de l'homme dans ces deux types de connaissances est très différente. Ensuite, le philosophe, normalement, et ça fait partie de quelque chose qui est pas toujours facile, s'étonne devant ce qu'il y a de normal. Oui. Le philosophe, il réfléchit pas premièrement sur les monstres. Ça, non, je ne veux pas dire que les scientifiques réfléchissent premièrement sur les monstres, mais vous voyez, le philosophe s'étonne de quelque chose de quotidien. Il ne construit pas le monde dans lequel il va réfléchir. Il est premièrement dans un état de réceptivité. Et la première chose qu'il découvre, c'est son manque d'intelligence à lui. Et le scientifique découvre, ce qui est vrai, c'est que la réalité, souvent qu'il étudie, manque de limpidité, et que sa théorie, normalement, devrait l'aider à rendre plus claire la réalité. Alors que le philosophe découvre que ce qui manque de limpidité, c'est son intelligence, c'est pas la réalité. Alors pour essayer de saisir, je dirais, ces deux attitudes différentes, oui, on pourrait, vous voyez, il faudrait trouver peut-être un exemple qui mette... Je trouve un exemple qui est très simple, c'est celui d'une mère de famille qui découvre qu'effectivement, un enfant, ça se nourrit pas n'importe comment et que ça peut pas ingurgiter n'importe quoi, ça demande d'être nourri correctement. Normalement, bon, après avoir fait quelques gaffes, elle découvre la manière dont il faut nourrir un enfant. Et elle est capable de le refaire pour un autre enfant. Donc, vous voyez, elle passe d'une expérience singulière, elle en dégage quelque chose, et elle est capable de dire, effectivement, un enfant, il ne faut pas lui faire ingurgiter, quand il a 4 ans, des baba au rhum tous les jours. Et elle est capable, à partir d'une expérience singulière, de dégager quelque chose et de l'appliquer ailleurs. Mais si de cette expérience, elle en construit une théorie, vous voyez, pour, je ne sais pas trop quoi, partir du expliquer tout l'enfant à partir de sa nutrition, par exemple. Vous voyez, on a des phénomènes exactement comme ça, je dirais, dans une psychologie qui est pas toujours, qui est un peu idéaliste, c'est qu'on part d'une expérience donnée et on la généralise. Le philosophe, il ne généralise pas premièrement, il saisit dans l'expérience ce qu'il y a d'universel. Effectivement, réellement, un enfant ne peut pas manger n'importe quoi. Mais à partir de l'expérience de la nourriture de l'enfant, en faire une théorie générale sur la psychologie, le comportement de l'enfant, son éducation, son intelligence, et puis... Là, ça deviendrait, une attitude injustement scientifique. Donc c'est important de comprendre que les domaines, la première chose à discerner, c'est que le domaine de la science et le domaine de la philosophie ne sont pas les mêmes. La philosophie regarde premièrement l'homme dans ses expériences, alors que la science aborde l'homme et aborde le réel et l'homme, qui est un de ses objets d'expérience, à travers une hypothèse. Alors, c'est ce qu'on voit aussi, bon, la grande différence, c'est que ce qui intéresse premièrement le philosophe, c'est l'homme. Vous voyez, alors que ce qui intéresse premièrement le scientifique, c'est de comparer, de voir qu'effectivement, dans l'homme et dans l'animal et dans la matière, il y a la même structure. Donc, au fond, ce n'est pas premièrement l'homme en tant que tel, et surtout, ce n'est pas l'homme dans ce qu'il a le plus lui-même qui intéresse le scientifique. Alors, dans les deux cas, on découvre ce que c'est que la connaissance, vous voyez. Je dirais, ce qu'il y a de commun ensuite, c'est que on découvre que la connaissance, c'est partir de son expérience avec, on l'a vu, deux attitudes différentes, mais chercher, essayer de progresser dans la compréhension de la réalité. Vous voyez, ça, je dirais, c'est ce qui rapproche le scientifique et le philosophe, qui fait que, bon, et puis le scientifique et le philosophe, ce sont des hommes, et je dirais, il y a toujours un scientifique derrière le philosophe et un philosophe derrière le scientifique. Il y a une intelligence commune, mais elle n'est pas utilisée de la même manière. Alors, on pourrait essayer de le voir à partir de quelques éléments. D'abord, en comparant la différence entre ce que c'est qu'une hypothèse et ce que c'est qu'un jugement. Alors là, puisqu'on a fini sur l'expérience humaine, j'essaierai de voir ce que c'est que le jugement philosophique, qui se découvre premièrement dans l'expérience. Vous voyez, le jugement, pas philosophique, le jugement humain tout court, dont se sert le philosophe, et que je dirais enrichit et purifie le philosophe. Le jugement philosophique, vous voyez, dans la continuité de ce qu'on a vu, il accepte d'être mesuré par la réalité. Je dirais, le philosophe se met à l'école de la réalité, sans aucun a priori, sans aucune hypothèse. Il a une interrogation, mais cette interrogation, c'est la réalité elle-même qui la suscite. Et au fond, le philosophe dépend toujours de son expérience. Il la dépasse, parce que dans cette expérience, il saisit quelque chose qui est universel, qui va plus loin qu'elle, mais au fond, il dépend toujours d'elle. Et le jugement, c'est ce contact premier, je dirais, de l'intelligence à travers les sens avec le réel. Vous voyez, c'est cette espèce de lien premier qu'on a avec la réalité. Et qui, pour le philosophe, est ce dont il part et ce à quoi il revient. Vous voyez, le but du philosophe, c'est pas d'avoir des idées claires. Ça, c'est le but du scientifique et c'est normal. Parce que, encore une fois, pour le scientifique, sa pensée est plus claire que la réalité. Alors que le philosophe découvre que c'est la réalité qui l'éduque. Le philosophe ne fait que dévoiler la luminosité de la réalité, alors que le scientifique, y met une certaine lumière, qui n'y est pas naturellement. Vous voyez, par exemple, quelque chose qui peut aider à comprendre ça, c'est que ce dont on ne se rend pas toujours compte quand soi-même on n'est pas scientifique, ce que la théorie de physique nucléaire, la théorie des protons et des électrons, c'est important de comprendre que la réalité n'est pas comme cela représente le physicien. Ce que sait le physicien, mais ce que ne savent pas toujours, ceux qui écoutent la vulgarisation de la physique. Vous voyez, c'est clair que vous prenez votre casserole, elle n'est pas composée de petites boules qui gravitent autour d'autres petites boules. Ça, c'est la représentation, premièrement, imaginative, qui aide à rendre compte de ce qu'est la réalité. Mais la réalité, elle n'est pas comme cela. Vous voyez, elle s'explique par cela. Mais il n'y a pas une identité entre les deux. La preuve, c'est que précisément à propos de la lumière, on voit bien qu'on a deux théories différentes. On atteint la lumière comme une onde, ou bien on atteint la lumière comme une matière corpusculaire, et il n'y a pas moyen de faire l'unité entre les deux, parce que ça n'a, vous voyez, au niveau de la théorie, c'est deux choses radicalement différentes, ce qui montre bien qu'on n'atteint pas scientifiquement la réalité comme elle est. On l'atteint dans la manière dont elle fonctionne, vous voyez, la manière, on l'atteint dans, c'est ce qu'on va voir, on l'atteint dans ses lois. Et puis, donc j'en reviens au jugement philosophique. Le jugement philosophique, il a son évidence en lui-même. Et ça, c'est très important. Le scientifique cherche à prouver sa théorie, son hypothèse. Je n'ai pas à prouver, vous voyez, que le micro, là, il existe. Je n'ai pas à prouver l'existence des réalités qui sont en face de moi. Ni, je n'ai pas à prouver non plus leur couleur ou leur qualité sensible. Elles me sont données dans mon lien avec la réalité. Je les reçois de la réalité. C'est pour ça que le philosophe, le scientifique, vous voyez, je dirais, est toujours doublé de quelqu'un qui est prêt à mettre en doute son hypothèse. À se dire, ce que j'atteins, c'est partiel. Il va peut-être falloir que je remette en cause tout ce que j'ai vu pour le rectifier, l'approfondir, l'affiner. Alors que le philosophe, je dirais, quand il a saisi quelque chose, il en est certain, il n'a pas à le remettre en cause. Ou bien il l'a saisi confusément, et c'est qu'il n'a pas une intelligence suffisamment affinée. Ou bien il s'est imaginé la réalité, alors ça c'est ce qui arrive souvent. Alors, effectivement, là il s'aperçoit que ça ne correspond pas au réel. Mais normalement, si je saisis dans un jugement quelque chose dans le réel, je ne peux pas le remettre en cause. Encore une fois, si c'est un jugement qui a son évidence en lui-même. C'est ce qu'on vit tous les jours. Vous voyez, quotidiennement, vous ne vous demandez pas, quand vous vous servez d'une poêle à frire ou de votre voiture, si elle existe. Vous adhérez spontanément à son existence. Si bien que le réel, je dirais, alors ensuite le philosophe compare ses expériences, compare ses jugements. Et il a quelque chose d'analogue à l'hypothèse, il a une interrogation. Mais c'est le réel qui le guide pour formuler son interrogation. Le scientifique, lui, à cause de cette hypothèse, je dirais, réfléchit sur le possible avant de réfléchir sur le réel. Vous voyez, dans le domaine de la philosophie, le réel est avant le possible. C'est la réalité qui fonde la possibilité. Parce que j'ai constaté ça ici, je me demande si ça peut exister ailleurs. Vous voyez, c'est ce que fait Aristote quand il compare les animaux. Il découvre certaines propriétés chez les oiseaux, sur la marche des oiseaux. Il se demande, est-ce qu'il y a d'autres animaux que les oiseaux qui marchent comme les oiseaux, selon le même schéma. Bon, mais il est parti de l'expérience des oiseaux pour en dégager quelque chose et essayer de le retrouver ailleurs. Et son souci, c'est de le retrouver dans la réalité, vous voyez. Alors que, je dirais, le scientifique, ce qui est plus intéressant pour lui, c'est la loi qui va régir la marche des oiseaux. C'est la loi qui l'intéresse, le scientifique. Qu'ensuite, ça concerne tel palmipède dans son bureau, ça c'est complètement secondaire. Vous voyez, que ça concerne le canari qu'il a chez lui, ça lui est complètement égal. Enfin, il a raison, c'est pas ça l'important pour le scientifique. Mais le philosophe, ce qui l'intéresse, c'est qu'effectivement, la réalité qu'il a sous les yeux, elle devient plus lumineuse. Plus exactement, son intelligence pénètre plus profondément dans la réalité qu'il a sous les yeux. Autrement dit, la recherche philosophique part du singulier et elle s'achève au singulier. C'est-à-dire que le terme de ma philosophie, c'est d'avoir plus les pieds sur terre. Vous voyez, c'est d'aimer plus, c'est de contempler. Mais de contempler la réalité, c'est pas de contempler mes idées. Et au fond, le philosophe se soucie moins d'expliquer la réalité que de pouvoir la regarder avec une plus grande profondeur, de pouvoir vivre avec un regard plus pénétrant. Alors que le scientifique, son souci, c'est d'expliquer la réalité. Vous voyez, de savoir que de savoir la formule du zinc, ça vous est... la regarder avec une plus grande profondeur, de pouvoir vivre avec un regard plus pénétrant. Alors que le scientifique, son souci, c'est d'expliquer la réalité. Oui, de savoir que votre, je sais pas trop quoi, de savoir la formule du zinc, ça vous aide pas à mieux vous servir de votre casserole en zinc. Oui, c'est important de comprendre que la connaissance scientifique ne m'aide pas dans ma vie humaine. Concrètement, alors il y aura tout le problème des sciences humaines, hein, il y aura tout le problème de la psychologie, bon, ça sur lequel il faudra réfléchir, ou de l'histoire. C'est évident que de savoir l'histoire, de connaître l'histoire, ça aide à faire moins de bêtises par la suite au niveau politique. Mais c'est important de comprendre que, je dirais, la loi ou ce que j'ai dégagé d'universel, de général au niveau scientifique, vous voyez, n'est pas directement présent dans la réalité dans laquelle je vis. Voilà. Même au niveau, vous voyez, je dirais, même l'histoire, on peut tout à fait dégager, je dirais, des phénomènes de crise au niveau historique et savoir qu'effectivement, il y a des, ou bien il y a des cycles, ou bien il y a des situations dans lesquelles on réagit toujours de la même manière. Ça ne se trouve pas concrètement dans la situation dans laquelle je suis en train de vivre. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut, il y a une parenté où je peux, ça peut me guider dans l'idée que je me fais de la réalité, mais ça ne peut pas me guider dans la compréhension de la réalité, dans ce qu'elle est immédiatement. Oui, c'est pour ça que la science cherchera, vérifiera la validité de ses expériences, alors que la validité de ses hypothèses, alors que le philosophe a l'évidence des jugements, du jugement qu'il porte sur la réalité. C'est pour ça que la science cherchera les conditions de possibilité de son expérience. Elle cherchera la certitude et la clarté, vous voyez, la science. Bon, ça, on retrouvera ça. Alors, si je dégage tout ça, c'est parce que c'est évident que la philosophie se fera, enfin, sera facilement... De la même manière que la philosophie, je dirais, a empêché, oui, on peut dire qu'elle a d'une certaine manière la corruption de la philosophie, à empêcher l'éveil de la science, enfin, ou à retarder, c'est difficile de voir, mais c'est clair qu'au Moyen-Âge, l'emprise de la philosophie sur la connaissance est telle qu'on n'envisageait pas, vous voyez, une connaissance autre. À l'inverse, aujourd'hui, on aurait tendance à ne croire qu'il n'y a qu'une connaissance scientifique, et à concevoir la connaissance philosophique selon une méthode et selon des structures de pensée scientifiques. Vous voyez, on ne cherche pas premièrement la certitude en philosophie. On cherche premièrement l'évidence. Ça montre bien qu'on cherche premièrement à regarder la réalité et à la comprendre mieux. Et que, je dirais, la certitude, elle va suivre l'évidence. Ce qui est important, c'est que je comprenne la réalité que j'ai sous les yeux pour le philosophe. Alors que le scientifique... L'important, c'est qu'il soit certain de sa, vous voyez, de son résultat, même s'il comprend pas. Oui, c'est clair, d'ailleurs, je dirais, ceux qui n'ont pas une formation scientifique, ils sont très, très heureux que la science soit certaine, bien qu'ils n'en aient aucune évidence. Vous voyez, ceux d'entre nous qui ne sont pas astrophysiciens, on ne comprend pas grand-chose à l'astrophysique. Et un astrophysicien nous dirait même qu'on n'y comprend rien, qu'on n'en comprend que ce qu'il veut bien nous en dire, à travers un langage qui est pas, nécessairement pas celui de la science. Mais ce qui peut nous transmettre, c'est nous dire, ça on en est certain, mais ça ne nous sera jamais évident à nous. Alors que le philosophe, il cherche pas à transmettre, à dire aux autres, c'est certain, il cherche à les aider à en découvrir l'évidence. Et au fond, vous voyez, l'hypothèse sera une recherche de cohérence. C'est-à-dire qu'on cherchera la cohérence entre un certain nombre d'éléments, entre un certain nombre de lois. On aura une réflexion sur la cohérence globale, vous voyez, la cohérence totale d'un phénomène. Au fond, le scientifique va chercher à construire une théorie la plus générale possible. Alors que le philosophe, je dirais, acceptera pendant un certain temps de n'avoir que des connaissances partielles. Mais précisément à cause de l'évidence du jugement qu'il pose, il pourra progresser de cette manière-là. Vous voyez, comment expliquer? Le scientifique acceptera pas, par exemple, de ne pas pouvoir unifier la théorie corpusculaire de la lumière et la théorie ondulatoire. Ou bien, bon, il y a des, dans le domaine psychologique, c'est la même chose. On essaiera d'unifier les différentes théories psychologiques. Et les théories de Freud, les théories de Jung, on essaiera de construire une théorie qui les englobe toutes. Et au fond, le fait qu'il y ait deux théories différentes, ça apparaîtra comme une contradiction. Alors que je dirais, le philosophe n'est pas dérangé s'il ne comprend pas tout. D'abord parce qu'il sait qu'il ne comprendra jamais tout. Il faut qu'il accepte, ça fait partie que, je dirais, encore une fois, l'important pour le philosophe, c'est pas de, vous voyez, d'avoir une pensée qui remplace la réalité. Ce qu'au fond cherche le scientifique. Parce que pour avoir une prise sur la réalité, vous voyez, pour avoir une prise sur la réalité, il faut avoir une pensée qui puisse, je dirais, l'englober et la structurer le plus possible. Le philosophe ne cherche pas à avoir une prise sur la réalité, il cherche à la contempler. Il cherche à vivre en face d'elle, vous voyez, à la pénétrer plus profondément, à la connaître plus profondément. Et donc il sait qu'il sera toujours mesuré par elle et qu'il n'en aura jamais une connaissance totale. Alors c'est évident que le philosophe se demande, vous voyez, quel est le lien entre l'intelligence et la sensation. Est-ce que c'est le même phénomène? Quel est le lien entre le mouvement des nuages et puis le mouvement d'un vivant? Quel est le lien entre le mouvement d'un animal et puis la rotation de la Terre? C'est ce que, vous voyez, le philosophe se demandera ça. Mais je dirais, il se posera une nouvelle interrogation à partir de ce rapprochement de deux phénomènes. Mais la recherche sur les relations entre les choses au niveau philosophique ne vient pas remettre en cause ce que je sais de chacun des éléments. Vous voyez, je peux parfaitement comprendre ce que c'est que le travail et ne rien comprendre du tout à ce que c'est que l'amitié. Normalement, ma découverte de l'amitié m'aidera peut-être à approfondir ma connaissance du travail. Parce que, par exemple, elle me donnera une capacité d'attention plus grande que je n'avais pas jusque-là. Mais ma découverte de l'amitié ne va pas remettre en cause mon expérience du travail. Quelqu'un qui sait travailler, je dirais, même s'il devient amoureux, il ne perd pas sa capacité de travailler. Et il sait toujours ce que c'est que travailler. Alors que dans le domaine scientifique, si vous découvrez quelque chose, vous voyez, que vous n'aviez pas prévu, qui vient remettre en cause ce que vous croyez certain, mais il faut tout remettre en chantier. Alors, ce qui est important, c'est peut-être de comprendre aussi tout ce que j'ai dit jusque-là de la science, vous voyez, c'est légitime à cause de son intention première. Le tout, c'est de la resituer dans cette intention première. C'est-à-dire cette intention de mesurer la réalité par une hypothèse et par une théorie. Et donc de dégager des lois générales. Et pas premièrement d'aider concrètement, je dirais, à comprendre la réalité mieux. Alors concrètement, où est-ce que vont se rencontrer la science et la philosophie? Elles vont se rencontrer, je dirais, sur leur objet, c'est l'image que prend souvent le père Philippe. On ne vole pas nécessairement à la même altitude, mais sur le terrain d'atterrissage, on se retrouve. Alors je sais, on sait, le philosophe aura la prétention de voler plus haut que le scientifique. Je ne sais pas si c'est une question d'altitude, c'est peut-être plus une question de regard que d'altitude. Mais c'est clair que sur leur objet, ils se retrouvent. Et que, le terrain de bataille, enfin, le terrain de rencontre principal, vous voyez, ça sera toutes les sciences humaines. Parce que les sciences humaines, elles ont à la fois le souci d'une rigueur analogue aux sciences positives. Vous voyez, les sciences humaines, c'est-à-dire la psychologie, l'histoire, l'ethnologie, la sociologie politique, l'économie, bien que l'économie, oui, même l'économie. Elles ont un souci d'approcher une rigueur analogue aux sciences positives comme la physique et les mathématiques, comme la chimie. Mais elles auront aussi l'intention précisément d'éclairer la réalité concrète. C'est très clair pour la psychologie. Alors le problème sera de purifier la philosophie de l'influence scientifique et de purifier la science de l'influence, je dirais pas philosophique, mais d'une intention philosophique. Vous voyez, que la science veuille expliquer tout, que la science veuille me donner la réalité des choses, que la science veuille me rendre compte de ce qu'est l'homme, je dirais, c'est pas juste, parce que ça correspond pas à l'attitude qu'elle a par rapport à la réalité. De la même manière que le philosophe veuille donner, vous voyez, une connaissance parfaitement claire, parfaitement objective, parfaitement pensable de la réalité, c'est pas juste non plus. Vous voyez, toute la philosophie, je dirais, idéaliste, qui réfléchit premièrement sur la conscience et qui essaye de... Mais qui ne considère que la réalité, au fond, que comme un reflet imparfait de ce qu'est l'intelligence. Vous voyez, la philosophie, je dirais, que critique par exemple quelqu'un comme Bergson ou comme Merleau-Ponty, qui est la philosophie de Kant ou même de Hegel, c'est d'aboutir à une pensée qui viendrait presque remplacer la réalité, qui serait une pensée tellement parfaitement limpide que la réalité ne serait qu'une participation imparfaite de cette pensée. Ça, je dirais, c'est l'influence de l'attitude scientifique dans la philosophie. À l'inverse, je dirais l'autre manière pour la philosophie de se laisser influencer par l'attitude scientifique, ça sera de refuser de dépasser l'expérience. Parce que on le reverra, mais précisément le philosophe, s'il part de l'expérience, essaye d'en dégager quelque chose. Donc, pour lui, l'expérience n'est pas l'absolu. L'expérience, je dirais, elle l'enseigne, mais ce sur quoi elle l'enseigne est plus que l'expérience. C'est évident que, vous voyez, par exemple, dans la connaissance de l'autre, dans la connaissance de l'ami, l'expérience me donne une connaissance de l'ami, et donc une capacité de l'aimer plus, vous voyez, qui m'enrichit au-delà simplement de cette expérience. L'expérience passée, j'ai une connaissance affective plus profonde de l'autre. Et au fond, je ne peux pas me contenter de décrire l'expérience. Parce que j'expérimente, je dirais, je découvre que l'expérience qui est singulière, on l'a vu, qui est contingente, qui est subjective, elle implique en germe quelque chose de plus profond. Elle implique une certaine nécessité, elle implique une certaine universalité qui va plus loin que le fait que ça soit moi, ici, concrètement, qui ai expérimenté ça. Vous voyez, on voit ça spontanément, le sage, c'est celui qui, à partir de ses expériences, est capable, je dirais, de comprendre ce que c'est que l'homme et de vivre... Et de, je dirais, de dépasser ce qu'il, je dirais, ces expériences particulières pour atteindre quelque chose qui rejoint l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Au fond, le philosophe essaiera toujours d'atteindre l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Alors que, je dirais, et au fond, vous voyez, l'universel de la philosophie correspondra à ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Alors que l'universel de la science correspondra à ce qu'il y a de plus général dans l'homme. Alors, c'est pas facile de faire la différence entre les deux. Mais au fond, le philosophe, vous voyez, dirait face à la réalité, cherche en elle ce qu'il y a de plus profond et est certain que ce qu'il y a de plus profond dans mon expérience, il découvre que il la retrouve dans l'homme, il la retrouve dans ses autres expériences, et les autres la retrouvent eux-mêmes dans leur expérience. Au fond, la pensée philosophique, quand elle creuse, découvre naturellement quelque chose qui dépasse l'expérience de tel ou tel individu. Alors que le scientifique part d'une expérimentation qu'il généralise. Vous voyez, je dirais, pour simplifier, la science cherche une extension, cherche l'extension la plus grande, alors que la philosophie cherche la profondeur de pensée la plus grande. Alors c'est ce qu'on voit très clairement dans ce qu'on appelle une induction. Vous voyez, c'est la différence entre l'induction scientifique, qui est une induction, alors là, et une induction baconienne, c'est-à-dire que, vous entendez, l'induction scientifique, c'est que, à partir d'un certain nombre de réalités que vous expérimentez, vous dégagez une loi générale. Et puis vous la généralisez. Vous voyez, l'expérience de la chute des corps, ça se fait sur un, ça se fait sur deux, ça se fait sur trois objets. On ne peut pas faire l'expérience de la chute de tous les corps. Et donc, on découvre une loi qu'on peut généraliser. Et donc, il y a une certaine induction. On passe de l'expérience de la pomme qui tombe par terre, dans son jardin, à la loi de la chute des corps. Je ne sais plus, c'est G égale. La loi de la gravitation. Mais au fond, vous voyez, ce qui est important, c'est que est-ce qu'on a compris quelque chose plus profondément? Quand vous savez que la loi de la gravitation, c'est G égale, mais quand vous savez la formule de la gravitation, est-ce que ça vous fait mieux comprendre ce que c'est qu'une pomme qui tombe? C'est important de se poser la question. Ça vous explique comment elle tombe, ça vous explique comment est-ce que toutes les pommes tombent. Mais est-ce que ça vous fait mieux comprendre ce que c'est que le mouvement, par exemple? Étudier, est-ce que c'est que avoir une formule de la vitesse, avoir même une formule de ce que c'est que l'énergie, est-ce que ça vous fait mieux comprendre, par exemple, ce que c'est que la force vitale? Est-ce que ça vous fait mieux comprendre ce que c'est que la vie? Alors je dirais, je ne crois pas que ça vous fait comprendre plus profondément ce que c'est que la vie, ça nous fait comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'induction baconienne. C'est bien de M. Bacon. Qui est différente de l'induction philosophique. Comment ça se prononce différemment? Alors que l'induction philosophique, elle a besoin d'une répétition d'expérience. Et vous voyez, c'est intéressant de voir que la science, au fond, elle a besoin d'expérimenter sur des objets différents le même phénomène pour pouvoir le généraliser. Vous voyez, j'ai besoin de voir que les pommes, les bananes, les oranges, les cailloux et les gens qui tombent dans l'escalier, tout ça, ça suit la même loi. Au fond, j'ai besoin d'avoir une extension, vous voyez, j'ai besoin d'une diversité de phénomènes pour découvrir ce que c'est que la loi de la gravitation. Alors que le scientifique, pour peu que son intelligence soit suffisamment affinée, c'est-à-dire une expérience unique lui suffit. Elle a besoin de se répéter pour qu'il la comprenne mieux, mais pour qu'il l'approfondisse mieux. De la même manière que quand on voit un tableau pour la première fois et qu'on n'a aucun sens artistique, on ne voit pas très très bien l'intérêt que ça a. Et puis, au fur et à mesure, on est capable de découvrir la beauté d'une œuvre d'art. Mais il y a quelque chose qui s'imprime en nous. On est capable de saisir plus profondément quel est l'ordre, quelle est l'inspiration, quelle est la beauté de l'œuvre qu'on regarde. Et d'une certaine manière, il y a un progrès en profondeur. Il n'y a pas simplement la généralisation d'un phénomène, on saisit plus profondément, on saisit quelque chose de plus profond. Par exemple, saisir ce que c'est que l'existence de l'âme de l'homme. Ça implique un approfondissement, oui, ça implique une expérimentation de la réalité, ça implique de découvrir qu'effectivement, la réalité matérielle, la réalité corporelle ne suffit pas à m'expliquer ce que c'est que l'homme.
Il y a plus profondément quelque chose qui est au-delà du corps de l'homme, et qui est le principe de sa vie. Et vous voyez, il y a, je dirais, l'induction au niveau philosophique, elle est une pénétration en profondeur, elle n'est pas simplement une généralisation. Alors c'était très important parce que, je dirais, la pensée scolastique a eu tendance à ne pas différencier les deux. C'est-à-dire, au fond, à dire, bon ben, l'homme, c'est évident qu'il a une âme, ça, il suffit de rencontrer c'est évident, il suffit de rencontrer quelqu'un, on voit immédiatement que l'homme a une âme, c'est un manque, une bêtise, c'est de la bêtise presque de ne pas comprendre que l'homme a une âme. Vous voyez, en considérant quasiment que, bon ben, il suffisait de voir un certain nombre d'individus, et puis de poser comme ça, parce que c'était nécessaire, vous voyez, d'une certaine manière, poser l'âme, c'était nécessaire à la cohérence de la théologie et de la philosophie. Parce que c'était cohérent, vous voyez, parce qu'il aurait été incohérent de ne pas poser l'âme, on a posé l'âme, mais on ne l'a pas découvert dans l'expérience. L'induction scientifique, elle ne se fait pas, vous voyez, au bout d'un certain temps, quand vous avez votre loi de la chute des corps, ça se dégage de toute expérience singulière. Vous avez votre formule, elle n'a plus rien à voir, je dirais, avec la réalité. Elle n'a pas besoin de la réalité pour exister. Alors que saisir ce que c'est que l'âme, ça demande d'avoir une personne. Saisir l'âme en soi, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans telle personne, il y a quelque chose de plus profond que le corps. Et que dans tout homme, il y a quelque chose de plus profond que le corps. Mais si je cherche à saisir que dans chacun, il y a quelque chose de que je veux dire que dans tout homme, il y a quelque chose de plus profond que le corps, c'est pour pouvoir le saisir dans chacun, c'est pour pouvoir, je dirais, découvrir en chacun l'existence de son âme. Alors que le scientifique, son souci, c'est pas de découvrir la loi de la gravitation dans la chute de chacune des pommes de l'arbre.
Alors, ce qu'on verra peut-être pendant le deuxième temps, vous voyez, on a essayé de dégager ce que c'était que la démarche scientifique et la démarche philosophique. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, bon, on l'a déjà un peu vu, c'est ce qu'ils atteignent de la réalité. Vous voyez, de voir plus précisément le philosophe, la manière dont le philosophe va considérer la science par rapport à elle. Par rapport à lui, la manière dont la philosophie va situer, parce que vous voyez, encore une fois, c'est le même objet. Le scientifique, il atteint quelque chose de réel, heureusement. Et je dirais, le philosophe pourra en douter, mais l'efficacité de la science sera là pour lui prouver qu'il atteint quelque chose de réel, qui lui permet d'avoir une emprise sur la réalité. Or, ce quelque chose de réel, le scientifique... Le philosophe, même s'il ne l'apporte pas de la même manière, s'il ne l'atteint pas de la même manière, doit aussi l'atteindre. Autrement dit, la loi de la gravitation, ça ne peut pas être quelque chose de complètement étranger à la philosophie. Vous voyez, il n'y a pas le monde scientifique dans la partie droite du cerveau et le monde philosophique dans la partie gauche. Dans la réalité, on atteint la même réalité. Alors le souci du philosophe, ça sera de, en termes philosophiques, de préciser... Qu'est-ce que le scientifique atteint exactement de la réalité, vous voyez. Le philosophe va situer le domaine de la science. Et je dirais, encore une fois, c'est pas une... Il faut le comprendre positivement. Je crois que situer le domaine de la science, situer ce qu'atteint la science de la réalité, ça ne peut que, je dirais, qu'aider le scientifique à ne pas se perdre, vous voyez, dans des théories qui vont plus loin que son domaine à lui. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une mère de famille qui généraliserait l'expérience de son enfant pour expliquer l'ensemble du comportement des enfants et même des adultes et des vieillards, je dirais, elle dépasse le domaine de ses compétences. Ce qu'elle peut effectivement, c'est comprendre ce que c'est qu'un enfant et la manière dont il faut le nourrir. Mais je dirais, pour découvrir ce que c'est que l'affectivité d'un enfant, c'est pas la manière dont on le nourrit qui le fait comprendre. Vous voyez, elle n'aura pas à dépasser les bornes de son expérience. Eh bien, de la même manière... Le philosophe va essayer de montrer jusqu'où le scientifique peut aller. Voilà. Donc on s'arrête 10 minutes, c'est ça? Si vous avez des questions, parce que je ne me rends pas compte, peut-être que c'est très très compliqué ce que je dis, alors à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à me poser des questions très très simples. Parce que souvent, c'est les plus intelligentes.